Salut à tous, bienvenue dans La Cartouche, le podcast Blueprint qui parle d'un ou plusieurs jeux vidéo. Je m'appelle Lou Lassina-Foubert et me voici en compagnie de Yann Rieder. Salut Yann.
Oui, pour vous ça fait une semaine, pour nous ça fait 30 secondes.
Pour nous ça fait 30 secondes et quelques paroles. On va parler aujourd'hui, vous l'avez reconnu peut-être à cette musique, de Fall Guys Ultimate Knockout, un jeu convivial, un jeu compétitif, un jeu rigolo, une espèce de battle royale un peu folle, un jeu très sympa auquel j'ai joué quelques heures, mais auquel toi Yann, je pense que tu as beaucoup plus rincé, tu es largement plus un expert que moi.
Je suis niveau 24, mais j'ai perdu mon abonnement PS Plus et je ne peux pas le racheter, fun fact, parce que ça bloque et j'ai vu que d'autres personnes avaient ce problème là au moment où on se parle, donc je ne peux pas donner mon argent à Sony et c'est très triste.
Bah Sony doit être très triste aussi, je pense. Il est encore plus triste que toi. Niveau 24 déjà, mais ça va vite, tu vas avoir plein de costumes, plein d'animations, tout ça.
Oui.
Mais concrètement déjà, qu'est-ce que c'est que ce jeu que Fall Guys ?
Alors, Fall Guys, ou de son titre complet d'ailleurs, Fall Guys Ultimate Knockout. C'est un party game façon Takeshi's Castle ou Ninja Warrior avec une mécanique de Battle Royale. Vous commencez à 60 et il y en a un qui récupère une couronne au bout du compte. C'est créé par Mediatonic, un studio britannique, je le disais tout à l'heure, et quand je disais tout à l'heure, c'est donc la semaine dernière, c'est un studio de 200 personnes à qui on doit notamment le port de Hateful Boyfriend sur console et dans une version un peu remasterisée sur PC, mais aussi cette année, Murder by Numbers, mais oui, tu sais mon cher Lou, le jeu qui compile le Sudoku, mais non,
c'est le
Picross,
le Picross
avec
le point and click
Phoenix Wrightien, pour ceux qui connaissent la licence de jeux comme ça d'enquête et d'avocature, sauf qu'on joue pas une avocate, on joue une actrice d'Hollywood dans Murder by Numbers. Mais voilà, parenthèse fermée. Ils ont aussi sorti auparavant plein de jeux de commande pas trop top sur iOS et Android, parce qu'il faut bien manger, ma bonne dame. Fall Guys,
on voit quand même que c'est un studio qui est habitué des concepts originaux, en tout cas
ça c'est clair, et c'est édité par Devolver, qui est aussi adapté et qui est aussi habitué des concepts originaux, qui l'ont déjà teasé il y a un ou deux ans. Il était sur mon radar depuis très longtemps et j'étais très heureux de le voir sortir le 4 août de cette année catastrophique 2020. Sorti donc sur PC, c'est-à-dire sur Steam, pour le prix de 20€, et sur PS4 au même prix, mais comme j'y ai fait référence il y a un instant, pour les personnes qui étaient abonnées PS Plus en août et qui ont décidé de le demander, eh bien, ils l'ont eu gratuitement. D'ailleurs, il a fait un carton puisqu'il s'est vendu à 7 millions d'exemplaires sur Steam depuis qu'il est sorti, et c'est déjà le jeu PS Plus le plus réclamé de l'histoire du service, ce qui là aussi est dingo-dingue, devant Rocket League, qui était un des plus gros succès dans la matière, ce qui avait vraiment aidé à lancer le jeu de Psyonix. Et devant également, je crois que c'est un Call of Duty quelconque qui a été lancé il y a quelques mois et qui avait auparavant le titre de jeu le plus réclamé sur PS Plus, car tout le monde aime bien le pampan boum boum, évidemment. Alors oui, comme tu l'as dit,
il y a un effet de mode clairement qui joue un petit peu comme Fortnite d'ailleurs au moment, et qui participe aussi au succès.
Totalement.
Mais qui est aussi dû justement au principe de son gameplay. Je voulais juste rebondir deux fois, je voulais dire que Devolver aussi était un concept original en lui-même.
Je suis d'accord.
Le classer. Alors moi, ce jeu, il me fait un petit peu penser aussi, parce que tu as évoqué Takeshi's Castle, bien sûr. On peut parler d'Interville, bien évidemment.
Oui.
On peut évoquer aussi Fortnite, parce qu'il y a un concept Battle Royale, un contre 100 finalement.
Dans le modèle écho.
Sur Xbox One, voilà. Bah, le côté aussi, finalement, pas forcément que dans le modèle écho, mais aussi dans la façon dont ça se déroule. C'est-à-dire que dès que tu perds, tu relances une partie aussitôt, et tu es toujours finalement dans la course. Un petit peu comme ça, ce côté
et
Battle Royale.
C'est le cas également de jeux comme Tetris 99. C'est même plus proche avec Tetris 99, parce que c'est un gameplay assez simple. Là où Fortnite, je suis pas un grand fan de Fortnite, je trouve que Fortnite, passez-moi le terme, c'est un peu le bordel, parce que à la fois c'est du PUBG où tu vas devoir récupérer du stuff, récupérer de l'armement, te combattre, etc. Et en même temps, t'as cette fonctionnalité de construction qui est récupérée du jeu original Fortnite, qui n'était pas tout à fait le Battle Royale qu'on connaît aujourd'hui. Et je trouve que le mélange des deux, enfin, je suis pas tout à fait d'accord avec l'idée que ça fonctionne bien ensemble. Je pense que c'est vraiment un Frankenstein qui est tombé au bon moment, qui est tombé en fait en plein pendant le délire PUBG, mais avec un emballage plus attractif, avec un jeu qui, il est vrai, fait meilleur usage des ressources de la machine sur laquelle il tourne, et c'est pour ça aussi que je pense qu'il a pris au final l'ascendant sur PUBG, et qu'il y a eu un lancement sur console plus rapide, plus efficace, et qui lui a permis là aussi de mieux s'appliquer et de devenir un succès. Donc c'est pour ça que je comparerais plus d'une certaine manière Fall Guys à Tetris 99 qu'à Fortnite, mais toujours est-il.
En tout cas, pour moi, le jeu qui s'en rapproche le plus dans le concept, le déroulement à peu près, ça va être aussi Genital Juicing. Alors, peut-être qu'à première vue, ça paraît. Est-ce que tu vois de quel jeu
oui,
je parle?
Oui, j'ai fait le mode story pas tellement multi, mais là tu parles justement de la succession d'épreuves entre
le jeu des Easy.
Oui.
Oui, voilà, ce côté succession d'épreuves un petit peu complètement décalé. Enfin voilà, vraiment, c'est le jeu auquel ça m'a fait penser. Tu vois, c'est un petit peu débilou ce côté. Enfin voilà, très très Interville, mais c'est, je pense aussi que en ça c'est un anti Fortnite, anti PUBG, où c'est bon enfant en fait finalement. C'est pas du combat.
Oui.
C'est alors t'es contre les autres, c'est compétitif, mais c'est vraiment on est là. Alors Fortnite, on est là aussi pour rigoler parce que l'univers est un peu cartoon, mais là c'est vraiment vraiment rigolo quoi. À coup de vas-y qu'on te met des gros boudins qui tournent,
des fruits,
des portes, des fruits qui t'écrasent, qui roulent, des espèces de grosses boules Kinder qui veulent t'écraser.
Alors,
des portes en mousse, tout ça, enfin c'est formidable.
Pardon,
de la lave, c'est au-delà du chewing-gum fondu, c'est formidable.
Je sais plus quel est le terme, c'est poisseux. Bah,
ça dépend des fois, mais dans un sens, c'est mucus.
Mucus, c'est bien ça. Non, effectivement, ça a ce côté vraiment tout public qu'un jeu comme PUBG et d'une certaine manière, un jeu comme Fortnite n'a pas nécessairement complètement à cause de justement la thématique arme pam pam boum boum qu'on y retrouve. Qu'est-ce qui fait le sel de Fall Guys? Qu'est-ce qui fait que 7 millions de personnes ont dépensé 20€ pour y jouer sur PC? Eh bien, c'est d'ailleurs pour commencer des mini-jeux qui font mouche. On est sur vraiment une succession de séquences de mini-jeux. Il faut atteindre le sommet de quelque chose, il faut arriver à la ligne qu'on nous demande, ou il faut réussir une action, par exemple. Pousser des ballons dans un but et on est simplement deux équipes, ou récupérer des ballons dans sa propre zone et là dans ce cas là on est trois équipes, pousser une balle jusqu'à un objectif, c'est ce genre de choses. Et la première
récupérer
équipe,
récupérer des œufs, t'as des épreuves de survie aussi, la typologie des épreuves sont assez variées.
Il y a un petit peu de tout effectivement. Il y a celui en anglais qui s'appelle Tiptoe, dans lequel tu as une grille de cases, certains sont en dur, d'autres vont se révéler être rien
génial.
Du tout, et tu vas tomber et tu vas devoir deviner quel est le chemin. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, évidemment, à chaque partie, le chemin est généré différemment. Y a plus ou moins moyen de savoir quelles cases sont fausses, mais t'as pas moyen de savoir quelles cases sont vraies. Si elles se secouent, tu sais qu'elles sont fausses, mais si elles ne se secouent pas, peut-être qu'elles sont fausses, peut-être qu'elles sont vraies. Donc ça garde un élément de suspense, et il y a toute la psychologie évidemment des joueurs qui rentrent là-dedans.
Tu vois les gens qui se poussent un petit peu à la fin pour essayer de faire tomber, et puis une fois que bon chemin est dévoilé, là c'est la course.
En fait, il y a pas qu'un seul chemin qui est large d'une seule case. En fait, c'est deux chemins qui parfois se croisent, parfois se croisent pas, et qui sont calculés aléatoirement. Donc c'est ça qui est intéressant aussi avec la façon dont le jeu pense ce type d'épreuve là. C'est bien foutu. Hein. Ça se voit qu'il y a eu pas mal de développement et de recherche pour faire en sorte que ce soit assez équilibré, même si, on va être très honnête, hein, depuis le lancement, certains mini-jeux ou l'apparition de certains mini-jeux a été équilibrée, par exemple, faire en sorte que les mini-jeux d'équipe n'apparaissent que quand un nombre équivalent de joueurs peut être réparti dans les différentes équipes, pour éviter d'avoir une équipe avec une personne en plus ou en moins, ce qui rend d'ailleurs, depuis, je crois que c'est une semaine que c'est le cas, l'apparition des mini-jeux d'équipe un peu moins fréquente qu'elle l'était auparavant. Donc ça,
c'est même un jeu de mémoire, celui avec les fruits que tu dois reconnaître du coup, oui, et te mettre sur la bonne case. Et je trouvais ça très intéressant justement d'avoir pas que du physique en fait, et pas que de l'adresse, tout ça.
Ceci étant, tu peux te fier aux autres et sur les versions les plus difficiles de l'épreuve de mémoire, simplement aller là où les autres vont. Ce qui fonctionne encore pas mal, pour être honnête. Mais ça, c'est une petite parenthèse. Ce qui est intéressant aussi, c'est que certains des mini-jeux, une mort par exemple, chuter dans le vide, revient simplement à recommencer et à retenter sa chance. Tandis que dans d'autres cas, par exemple quand tu peux tomber dans le mucus, que tu citais tout à l'heure, Lou, là, dans ce cas-là, tu es éliminé. Alors, la mécanique d'élimination, voilà, elle est la suivante. Soit, effectivement, il y a une élimination dure en tombant, et dans ce cas-là, bah, tant pis, il va falloir relancer une nouvelle partie et jouer contre 59 autres personnes de nouveau. Ou alors, il y a simplement un quota, et si vous n'êtes pas dans le quota, eh bien, tant pis pour vous. Si vous êtes 41e alors qu'il n'y a que 40 personnes qui peuvent y survivre, qui peuvent arriver au bout de la course, dommage, dommage. Dans l'autre sens, il y a aussi des quotas d'élimination. Par exemple, certains mini-jeux où il faut survivre jusqu'à ce que 10 personnes aient perdu. Ce qui est assez rigolo. Donc voilà, le jeu présente des règles un petit peu différentes, on tombe pas forcément sur les mêmes mini-jeux. Et puis, imaginons que les gens avec lesquels vous jouez soient très mauvais. Il se peut qu'au lieu que la partie se termine et qu'un gagnant soit couronné littéralement avec une couronne, puisque c'est l'objectif qui est à remporter. Imaginons que beaucoup de gens meurent à la deuxième épreuve, bah, il se peut que ça dure pas 5 ou 6 épreuves, mais que ça n'en dure que 3 ou 4. Ça peut arriver, suivant et quels mini-jeux sont tirés et quelle adresse ont les joueurs qui jouent avec vous. Joueurs qui jouent avec vous, là d'ailleurs, je tiens à le dire déjà maintenant, Fall Guys est beaucoup plus fun quand on joue à plusieurs, donc quand on joue en ligne, on peut jouer jusqu'à des équipes de 4. Et ce qui est plaisant d'ailleurs là aussi, c'est que le jeu fait un effort de mettre les gens qui jouent ensemble dans les mêmes équipes quand c'est des mini-jeux à équipe, ce qui est super. Ça marche bien de ce côté-là, c'est vraiment réussi. La physique, tu voulais en parler un petit peu, mon cher Lou, la physique des personnages, puisqu'on parle d'un jeu de plateforme, ou en tout cas d'objectif vraiment d'adresse, elle est particulière.
Mais c'est pas tant la physique que la façon dont le personnage répond au contrôle, en fait. Mmh. C'est surtout ça, c'est-à-dire que t'as une... c'est pas entièrement précis, ça veut pas dire que le personnage va à droite, celui d'aller à gauche, mais tu sens qu'il y a une certaine, pas une lourdeur, mais une balourdise, je dirais, du personnage, notamment aussi lié au saut, la façon dont il se réceptionne, tout
il
ça
peut
qui
perdre
est volontaire,
son équilibre assez facilement. Ouais. Ouais.
Et ça participe à ce côté, enfin la première fois que je me suis pris un mur et une porte et tout, je peux te dire que je me suis dit, ah mais...
Boing.
T'avais vu des vidéos, tu dis, ouais, les gens sont nuls et tout. Et puis là, tu te rends compte, bah non, en fait, t'es en train de manœuvrer un poids lourd presque. Mais ça participe à ce côté un petit peu ridicule où t'as l'impression, c'est comme si dans la vraie vie, t'étais cette espèce de costume de faux sumo, là, un petit peu énorme, gonflé, tout ça. T'as un peu cette impression, je dirais, à peu près ce genre de personnage. Et je trouve que ça participe justement à l'intérêt du jeu, parce que finalement l'objectif il va pas être tant dans la maîtrise parfaite, tu vois, du truc, c'est de faire avec ses défauts entre guillemets, de faire aussi bien que possible, là où t'aurais un jeu, t'aurais eu, je sais pas, un gameplay à la Mario par exemple, avec une exigence physique et des contrôles qui soient au poil de fesses près, ça aurait été moins drôle. Là, au contraire, on a ce côté un petit peu, voilà, la bonne franquette, on va dire, qui est assez rigolo. Et je trouve que c'est une aussi des qualités du jeu, de ne pas avoir voulu faire quelque chose de parfaitement polish, mais au contraire de volontairement un peu grossier finalement dans cette façon de faire.
Et ça reflète un état d'esprit que le youtubeur américain Alpharad traduit très bien dans sa phrase fétiche désormais quand il parle du jeu, qui est que dans Fall Guys, le but ce n'est pas nécessairement d'être le premier, en tout cas sur la plupart des mini-jeux, mais c'est de ne pas être le dernier ou de ne pas être la dernière équipe. Le but, c'est de pas être le plus perdant de tous. Mais en gros, que tu finisses 3e ou 5e, certes, ça va te rapporter plus ou moins de points d'expérience qui vont te permettre de monter en niveau, qui vont te permettre de récupérer certaines récompenses, mais en tant que tel, ça ne change pas grand-chose. Tout ce pourquoi tu te bats au final, à part évidemment la gloriole de finir premier, c'est de quoi débloquer des animations pour des taunts, des animations de victoire, des couleurs pour colorier ton personnage, des costumes pour l'habiller et des motifs, là aussi, pour faire alterner les couleurs différemment sur son corps. Donc ça reste vraiment... extrêmement cosmétique. Ceci étant, on sait aussi que le cosmétique a une influence sur les joueurs, que ça participe au consentement à payer, l'effet un petit peu jalousie de voir quelqu'un avoir un costume que tu n'as pas ou d'avoir un costume qui n'est disponible que de manière limitée peut pousser les gens évidemment à dépenser de l'argent pour acheter la monnaie du jeu. Donc ça rentre dans ce genre de circuit vicieux aussi, mais j'y reviendrai un petit peu plus tard. Tu le disais sur la physique, c'est une des réussites, et ce que je trouve intéressant, c'est qu'en fait, il y a une profondeur dans la physique de Fall Guys. Par exemple, quand tu dois tomber de haut, il ne faut pas sauter, il faut vraiment se laisser tomber, parce que si tu sautes, tu vas avoir plus de chances de perdre de l'équilibre. Si tu sais que tu vas perdre de l'équilibre, si tu te dis je saute de trop haut ou j'y vais un peu n'importe comment, il vaut mieux faire un plongeon. Parce que quand tu fais un plongeon, tu remontes de manière systématique. Tandis que quand tu tombes ou quand tu tombes d'un saut, ça va vraiment dépendre de ta hauteur et de différents facteurs, de la pente sur laquelle tu tombes, ce genre de choses. Ou si la surface est plane ou pas. Enfin, il y a plein de trucs qui rendent en compte autre chose. Je sais pas si tu as fait ce mini-jeu où tu le fais. Si tu termines, c'est une épreuve où il faut simplement arriver à la ligne d'arrivée et tu as des boules qui te tombent dessus et juste avant ça, tu as trois plateaux qui tournent dans des sens différents.
Ah, j'adore celui-là.
Et alors, justement, sur ces plateaux-là...
Tout le niveau, il est sur les trucs qui tournent, en fait, d'ailleurs.
Mais justement, quand tu sautes sur un plateau qui tourne, il faut positionner ton personnage dans le sens de la rotation. Parce que si tu ne le fais pas, tu vas te casser la gueule. Mais si tu le fais, normalement, tu restes debout et ça te permet d'aller plus vite et d'espérer être un des premiers. Donc ça participe complètement, encore une fois. Il faut savoir se positionner, il faut savoir faire ça. Mais voilà, cet état d'esprit foire d'empoigne, Battle Royale, en jouant avec ses amis, c'est un des grands plaisirs. Jouer seul, au final, je trouve que ça peut devenir un peu répétitif. À ce stade, le nombre de mini-jeux est assez limité. On en aura plus à la deuxième saison du jeu qui devrait arriver en octobre, avec d'ailleurs un délire médiéval. On a vu ça à la Gamescom. Ça a été révélé à cette occasion-là. Je trouve que les mini-jeux en équipe sont injustes, d'autant plus quand on joue seul, parce qu'on dépend des autres pour pouvoir suivre l'aventure et pour pouvoir participer aux épreuves suivantes. Dans certains cas, on a beau bien se débrouiller et faire ce qui était demandé de nous, si le reste de l'équipe n'est pas bonne, l'aventure s'arrête là et c'est un petit peu dommage. Et sur certaines épreuves aussi, notamment celle où tu cours dans tous les sens pour attraper la queue de quelqu'un d'autre avec le bouton de shop, au final, dans ces mini-jeux-là, seuls les 10 ou 30 dernières secondes comptent véritablement. Le reste, c'est juste des gens qui courent dans tous les sens. Et sincèrement, ça sert pas à grand-chose. Donc, je pense qu'il y a quelque chose à retravailler sur les mini-jeux comme ça, où finalement, ce qui est décisif, c'est pas toute la progression jusqu'à la ligne d'arrivée ou jusqu'à la fin du timer, mais c'est seulement les derniers instants avant le timer où tout peut se décider. Je sais pas si tu l'avais vu sur mon compte Twitter d'ailleurs, j'ai réussi à attraper la queue d'un adversaire, mais vraiment au moment où le timer affichait zéro, il allait dire que j'étais éliminé, et là il a fait c'est bon, tu passes quand même.
Tu l'as fait quand, ce truc là?
C'était il y a une semaine, je crois.
Ah d'accord, parce que j'ai eu cette mésaventure inverse. Donc je me disais, ça se trouve c'était toi qui m'as chopé ma queue.
Non, c'est pas du crossplay, donc j'étais sur PS4 et t'étais pas sur PS4.
D'accord,
donc, ouais.
je l'ai immortalisé du coup, parce que c'est dans mon let's play. et tu vois que je me fais littéralement... je récupère une queue à 11 secondes de la fin.
Ouais.
Et à moins d'une seconde de la fin, tu vois, sloop. Non, c'est pas possible. Surtout qu'en fait, je suis très mauvais. Honnêtement, je perds souvent la première épreuve, mais ouais, je me marre énormément. Je m'amuse beaucoup. J'aime beaucoup l'épreuve dont tu parlais, avec les anneaux qui tournent. C'est une que je réussis pas mal. Oui. Les épreuves de course comme ça, je suis assez doué. Mais justement, je trouve qu'en termes de sélection des niveaux, assez étrangement, je retombais vraiment beaucoup sur les mêmes.
Ouais.
Alors qu'il y en a que j'avais pas du tout fait. Il y en a un que je déteste, c'est celui avec la montée de mucus, justement.
Est-ce que t'as fait celui de la malédiction? Parce que j'ai joué plusieurs heures sans être tombé dessus, puis tout d'un coup, pouf, je l'ai eu. Je veux pas trop le spoiler, mais la malédiction, en gros, enfin, si je veux le dire, c'est tu joues à, d'une certaine manière, tu joues à chat, parce qu'en fait, t'as quelqu'un qui est maudit, t'as quelqu'un qui a le coronavirus, et le but c'est d'attraper quelqu'un de l'autre équipe pour lui donner le coronavirus. Et la dernière équipe qui a quelqu'un qui n'a pas le coronavirus gagne.
Ah, c'est super. Non, j'ai pas fait. Ça a l'air très très bien comme mini-jeu.
Et non, il est assez rare pour une raison, je comprends pas, parce que littéralement, t'as juste à diviser en deux équipes et c'est gagné, quoi. T'as juste à avoir un total de participants équivalent.
Mais ouais, je trouve que... Alors, je me suis posé la question, est-ce qu'ils te donnent les jeux en fonction peut-être éventuellement de ton niveau? Je sais pas trop.
Non, ils les donnent en fonction... Si tu veux, il y a plusieurs règles. Il y a la règle qui a été introduite récemment, qui est celle du nombre... Est-ce que c'est divisable en nombre de 2, 3 ou 4 équipes? Et là, ouais, ça décide un petit peu si c'est, les, si c'est un mini-jeu par équipe ou pas. Et je crois... Je suis pas certain, mais je crois que le jeu ne peut pas te donner 2 mini-jeux par équipe de suite. Et donc, du coup, ça le force à faire certains choix. Pareil
mais,
pour le mini-jeu final.
En tout
final,
cas, je tombe vraiment beaucoup sur le même type de jeu à monter. Par exemple, celui avec les boules à la fin qui, ouais, en les pendules, les espèces de pendules comme ça. Celui-là, j'ai dû le faire 4 ou 5 fois. Ouais. Alors qu'il y en a que j'ai fait 1 et certains 0, quoi.
C'est au-delà de ça, c'est vraiment aléatoire. Après, ceci dit, il y a encore une autre règle pour le mini-jeu de fin. Celui qui va te donner la couronne.
Je l'ai vu qu'une fois.
Ça se bah en fait, il y en a différents et ça se décide en fonction du nombre de joueurs. Si on a vraiment beaucoup, il te fait un saut à la, pas un saut à la perche, mais un saut avec, tu sais, enfin, t'es sur une plateforme ronde et il y a un truc qui tourne en permanence, ça tourne de plus en plus vite et il faut sauter pour éviter le poteau. Si tu es une petite dizaine, il va te faire la course de la montagne où tu dois attraper la couronne à la fin.
C'est ce que j'ai eu.
Et faut pas oublier d'attraper la couronne. Hein. Les gens oublient d'appuyer sur le bouton de grab pour attraper la couronne, c'est très triste.
J'étais premier, je te jure, on le voit sur la vidéo, j'étais devant et tout, j'étais super content et je me prends un de ces tourniquets débiles parce que je le prends dans le mauvais sens, comme un idiot, donc évidemment, en pleine tronche et tu repars comme une vieille saucisse qui tombe du frigidaire, quoi.
Et t'en as un autre, les hexagones, il est excellent en fait, t'as une...
Ah oui, où tu tombes d'étage en étage.
Oui, et c'est des petits panneaux hexagones arrangés en étage, justement, comme tu le dis, à chaque fois que t'en touches un, il disparaît. Et t'as plein de stratégies. T'as la stratégie de vouloir, par exemple, courir dans tous les sens pour pouvoir piéger les autres. T'as la stratégie qui consiste à prendre du temps et à littéralement sauter boop, boop, boop d'un hexagone à l'autre pour gagner du temps. Y a plein de petites techniques que tu peux développer. Et ça rend le jeu intéressant sur une base toute simple, donc c'est ça qui est fun. Voilà.
Du coup, toi, tu as beaucoup plus joué. Est-ce que c'était pas trop répétitif finalement tous ces jeux qui tournent?
Seul oui. Jouer à plusieurs, je vois pas le temps passer. J'ai joué notamment avec Valo, avec Traknar, et c'était le grand fun. Et j'ai hâte de rejouer avec eux. J'ai hâte de aussi pouvoir découvrir le jeu avec. D'autres personnes, enfin de leur faire découvrir le jeu et de jouer ensemble, si Sony veut bien me laisser acheter du PlayStation Plus. J'ai encore testé pendant qu'on parlait, ça marche toujours pas.
Sony, laissez-nous dépenser nos sous.
C'est vrai ça, je veux te donner 10 euros. Quand même. Parce que oui, à chaque fois, je désactive le renouvellement automatique parce que j'aime pas laisser tourner des abonnements sans savoir si je vais continuer à l'utiliser ou pas. Et du coup, je me retrouve dans cette situation gênante.
Mais tu bref. Payes en euros, toi ?
Non, je le disais pour nos auditeurs, c'est 10 francs suisses. Enfin, 9,99.
Que d'efforts tu fais quand même pour nos auditeurs.
Oui. Donc, oui, c'est répétitif, mais clairement pas quand on joue avec des potes, on va vraiment pas le temps de passer. Voilà, j'aime beaucoup.
Est-ce que tu vois une petite liste de défauts, notamment d'ordre technique, parce que je vois que tu l'as
oui,
noté
voilà.
sur le conducteur.
Au-delà du manque de variété de mini-jeux, une fois qu'on y a joué plusieurs heures et quand on y joue en solo, je dirais les deux trois petits soucis. Premièrement, sur PlayStation 4, donc les modèles originaux de PS4, pas les PS4 Pro, et je peux pas témoigner pour les PS4 Slim, mais en tout cas pour les PS4 originales, le jeu tourne en 30 images secondes. Ce qui est dommage, parce que on est à fond dans la réactivité avec un jeu comme ça, et je pense que ça ajoute un degré de balourdise, et ça retire du coup un degré de réactivité. Là où c'est drôle, parce qu'ils ont commencé à patcher le jeu aussi sur PS4 original, et là maintenant les menus tournent en 60 images par seconde à peu près, mais le jeu, les mini-jeux continuent à tourner en 30 images par seconde. Donc on y est presque, j'espère que Mediatonic arrivera à planir et à rendre la performance égale sur tout le jeu, sur toutes les plateformes, pour que tout le monde soit à égalité tout simplement. Autre chose, alors là aussi, je parle des serveurs du coup qui servent dans le cadre des utilisateurs PS4. Parfois le serveur vous déconnecte comme un vulgaire jeu Nintendo. Oui voilà, c'est ça, c'est vraiment, c'est le même type de message, c'est déconnexion du serveur, désolé, il faut recommencer. Et c'est frustrant, d'autant plus dans les dernières manches où ça arrive plusieurs parties de suite. C'est dingue quand soit t'arrives quasiment au bout, t'es presque sur le point d'avoir la couronne et puis boum, tu te fais dégager, c'est un peu nul. Quand plusieurs fois tu lances une partie et au premier jeu boum, tu te fais déconnecter, c'est aussi très triste, donc je trouve ça assez dommage. Et puis un dernier point que t'as peut-être remarqué toi aussi, c'est pas si facile que ça de sortir d'une partie après avoir été éliminé, puisque t'es mis en spectateur par défaut et faut souvent se fader la petite animation, et le du 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 quand les gens sont dégagé de la grille d'Académie des Neufs géante qui contient tous les utilisateurs, tous les joueurs de la partie. C'est assez dommage de ne pas avoir un truc qui permette de quitter vraiment n'importe quand, y compris dans les écrans de chargement, y compris juste après avoir été éliminé, alors que le mini-jeu est déclaré comme terminé, quoi.
Ça, ouais, c'est un truc. Faut aller vite. Des fois, faut aller très très vite pour pouvoir.
Mais en fait, sur PS4, ça rapidement. Marche pas. En tout cas, sur le modèle de PS4 original, il faut vraiment attendre d'arriver sur l'écran de Total pour ensuite pouvoir en sortir complètement. Ce qui est dommage parce que, encore une fois, on parle de flow. Et tu le disais tout à l'heure, on enchaîne les parties. Et c'est vrai, ça fait partie de l'intérêt d'un jeu comme Fall Guys. Et du coup, derrière, il faut que l'interface suive. C'est impératif. Et donc, il y a encore du taf de ce côté-là. Je ne pense pas que ce soit hors de portée de Mediatonic. Je ne pense pas que ce soit hors de portée de la PS4 modèle original. Il y a peut-être des ajustements à faire, que ce soit du côté du moteur peut-être, ou simplement du côté de la prouesse graphique. Peut-être baisser un peu la résolution du jeu vers une résolution un peu plus bâtarde. J'en sais rien. Je pense que le jeu tourne en 1080p, donc peut-être le downgrader un petit peu serait un moyen de récupérer de la ressource d'une manière ou d'une autre. Pour être honnête, hein, je ne suis pas dans leur bot, donc je ne peux pas exactement dire ce qu'il faudrait faire de manière précise. Mais moi, j'y crois. Je pense que c'est possible, à voir s'ils le veulent et à voir s'ils le peuvent véritablement. Voilà, c'est les quelques défauts d'ordre technique que j'ai à dire à propos de ce jeu-là. Ça ne m'empêche pas d'y retourner quand Sony me permet de me payer mon abonnement.
On a eu deux questions de Thomas alias Hook Hook sur Twitter. J'en profite, n'hésitez pas à nous suivre sur Twitter la cartouche BP pour pouvoir poser vos questions. Bien évidemment, on fait des tweets pour parler des jeux dont on va parler justement dans nos émissions. Oui. Donc c'est le moment idéal pour poser vos questions. C'est des questions de Thomas qu'on a déjà répondu dans cette émission. Mais on va revenir vite fait. Fall Guys reste un party game. C'est jeux qui font passer de super moments entre amis, mais dont on se lasse vite. Ça dépend des party games. Je dirais un Mario Party, personnellement je m'en suis jamais lassé, les premiers du moins. Est-ce que le fait ici de ne pas choisir ses amis peut aider selon vous à conserver l'intérêt du jeu dans la durée? Donc tu as plus ou moins répondu.
Oui, alors on peut quand même jouer avec ses amis, mais ils seront noués dans la masse. Vous serez que au maximum 4 parmi 60, donc vous ferez quand même face à 56 inconnus, en tout cas dans la première manche. Comment dire, je pense que oui, d'une certaine manière ça aide l'intérêt du jeu, parce qu'on va toujours faire face à une masse informe, surtout dans les premiers mini-jeux, et ça aide complètement ce côté comique, ce côté burlesque qu'ont les mini-jeux quand tout le monde se bouscule. Déjà ça, c'est un premier truc, ce qui rend d'ailleurs Fall Guys aussi fun à jouer qu'à regarder. C'est un jeu qui cartonne sur YouTube, et c'est clairement un jeu qui est dans notre époque de viralité sur les plateformes vidéo, que ce soit justement YouTube ou simplement une intégration vidéos sur Twitter, Facebook, etc. C'est vraiment fait pour être gifé, c'est fait pour être partagé. C'est des séquences de jeux qui marchent très bien comme ça. Je me suis moi-même surpris à partager pour la première fois des vidéos venant de ma PS4, alors que sincèrement, c'est pas la meilleure interface et le meilleur flow pour pouvoir sortir des vidéos. Mais ça, c'est un autre problème qui concerne plus Sony que les développeurs du jeu Mediatonic. Donc oui, ça aide, et comment dire, tout comme tous les jours naît quelqu'un qui ne connaît pas la cartouche, qui ne connaît pas, je ne sais pas, qui ne connaît pas certaines choses, tous les jours naissent quelqu'un qui ne connaît pas et commence à jouer à Fall Guys, quelqu'un qui ne connaît pas le mini-jeu de Fall Guys que tu vas faire. Donc tu vas pouvoir voir des gens faire n'importe quoi, et tu vas avoir ce spectre aussi bien de joueurs vraiment chevronnés qui vont prendre des petits raccourcis, qui connaissent bien les obstacles, qui vont les éviter, etc. Et en même temps, des gens qui vont faire des imbécilités pas possibles et qui vont y compris avoir l'effet, du coup, de se mettre en chemin des gens qui savent ce qu'ils font et de les mettre dans la merde eux aussi. Donc ça a un côté un peu grand égalisateur d'avoir littéralement tout le monde, et d'autant plus, je dirais, sur PlayStation, parce que le jeu est gratuit pour les abonnés PS Plus, ce qui signifie qu'il y a pas mal de gens qui ne savent pas vraiment ce qu'ils font et qui ont débarqué dans le jeu parce que de toute façon il était gratuit, qui aident là aussi pas mal à planir les choses. Là où il est possible que la communauté PC, vu que le jeu est payant, risque de devenir plus exigeante et plus, comment dire, et plus expérimentée. Ceci étant, est-ce que c'est pas improbable que dans 6 mois, 1 an, Fall Guys devienne gratuit, y compris sur PC? Ça peut se voir venir. Hein.
Perso, j'y crois assez.
C'est ce que fait Rocket League en tout cas.
Tu parlais de masse informe, justement, d'autant plus informe que la possibilité de changer son pseudo a été supprimée en raison des gros mots qu'il y avait. Je trouve que c'est un
petit c'est pas
poil
définitif.
Dommage. Oui, oui, je me doute, mais c'est un petit poil dommage parce que ça avait le charme de. Et ben, je vais lire la question justement de Thomas. Jusqu'à quel point peut-on faire un parallèle entre Fall Guys et Tetris 99, comme tu l'as dit, sans joueur random, partie rapide, élimination jusqu'au top 1. Moi, je pensais à 1 contre 100. Il y avait ce charme de d'identifier finalement la personne qui gagne, tout ça, et de la reconnaître. Là, c'est juste Fall Guys plus un numéro derrière. Et c'est un poil dommage, je trouve, de perdre ça.
Fall Guys pourra apprendre de Tetris 99, notamment sur le mode Invictus. Le mode Invictus dans Tetris 99, vous le débloquez une fois que vous avez fait top 1. Donc il suffit juste d'avoir fait top 1 une fois, mais en fait.
Juste, j'aime bien comment tu dis ça.
Mais c'est exactement ça. C'est plus facile à dire qu'à faire, et du coup, ça écrème énormément les joueurs de sorte que tu as un ersatz de mode casual qui est le Tetris 99 normal et le mode Invictus qui est un peu le mode pro, le mode compétitif, le mode des gens qui ont réussi à prouver qu'ils arrivaient à battre les 99 autres, enfin les 98 autres joueurs. Donc ça, je pense que ça pourrait clairement bénéficier à Fall Guys et de manière générale d'avoir en fait différents modes. On comprend bien, le jeu a été lancé, Mediatonic ne savait pas que le jeu allait être un carton, du moins en tout cas pas à ce point-là. Et donc du coup, ils ont fait un jeu simple qui lui ont permis de sortir le jeu rapidement et en même temps qui ne divise pas la communauté sur une plateforme. Toute la communauté finit dans quoi ? Dans le mode Fall Guys qui est le seul mode de jeu, point à la ligne. Je pense qu'il y a une opportunité pour Mediatonic par la suite de développer des modes alternatifs. Je sais pas, il pourrait même pousser la logique très loin en disant tiens, on va même faire un mode jeu de plateau où les différents mini-jeux sont un peu décidés à la Mario Party. On pourrait faire des trucs, enfin je sais pas, du ranking sur certaines épreuves genre Hexagone. Il y a plein de possibilités qui peuvent être creusées à mon avis avec ça, parce que le jeu, on va dire, a son moment culturel, comme l'ont eu des jeux comme Untitled Goose Game par exemple. On voit les marques s'en emparer sur les réseaux sociaux, on voit les médias s'en emparer un petit peu partout. Aujourd'hui même, quand on enregistre l'épisode, Sonia De Villers, la chroniqueuse média et animatrice d'émissions médias sur France Inter, a dédié sa chronique dans la matinale d'Inter justement à Fall Guys. C'est te dire, elle parle pas de jeux vidéo tous les jours, Sonia De Villers. Donc clairement, le jeu est au centre des attentions, ce qui fait qu'ils ont pas mal de choses à développer potentiellement autour, parce que la communauté, en tout cas à ce stade, est énorme. Leur but maintenant, c'est de faire en sorte que ça ne s'essouffle pas, et c'est pour ça, moi je serais très intéressé, mon cher Lou, que dans 3 mois, dans 4 mois, on fasse de nouveau un point sur Fall Guys et on regarde où on est le jeu à ce moment-là.
Bah écoute, prenons rendez-vous. En attendant, la cartouche, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Si vous souhaitez parler d'un jeu ou d'une série de jeux ou que vous avez une idée pour un top, une liste, dites-le nous en commentaire sur notre page La Cartouche sur Apple Podcasts.
Yes.
Sur Twitter, vous pouvez suivre l'émission @lacartouchebp, nous poser vos questions bien sûr sur les prochains sujets qu'on va évoquer. Et pour nous suivre, nous, c'est @alexleserveur et @inkshd pour Yann. À très vite. Ciao.
Bye. After show.
After show. After show.
Qu'est-ce qu'on a pour cet after show là? Oui, Lou, j'ai une nouvelle à t'annoncer. J'ai décidé entre la PS4 et la Xbox Series X. La PS5, pardon. Et tu sais ce qui m'a fait décider? Je sais pas si t'as cliqué sur le lien. On a récemment appris que plein de jeux qui étaient pour l'instant uniquement confirmés en 30 images par seconde allaient également être en 60 images par seconde sur PS5, dont notamment Ratchet & Clank Rift Apart. On a également Astrobot, ça on le savait déjà. Spider-Man Miles Morales aura également un mode 60 images par seconde. Et Demon's Souls, ce sera également le cas. Donc là, pour le coup, ça me rassure beaucoup. C'était un des points où j'étais prudent, voire un peu effrayé par la PS5 en me disant, est-ce que c'est la génération pour eux qui va quand même rester dans le compromis 30 images par seconde, 60 images par seconde. Là, en fait, clairement, c'est la division, un peu comme la PS4 Pro, entre la 4K à 30 fps et la 60 fps et une résolution plus basse. Moi, c'est un trade-off qui ne me gêne pas. Le reste de ce qui est proposé avec la plateforme PS5 me plaît, que ce soit la manette avec ses gâchettes adaptives, que ce soit... Et avec tout le côté Par exemple, de pouvoir ressentir certaines textures, certains blocages de gâchettes suivant les situations, le type de SSD sur lequel tournera la console, même si évidemment la console de Microsoft aura aussi un SSD. Je trouve que c'est ambitieux et intéressant ce qu'ils essaient de faire. Donc là, et puis l'offre de jeux, clairement, on en avait déjà discuté à l'époque, hein, mais m'a beaucoup plus convaincu du côté de Sony que du côté de Microsoft. Donc en l'état, je me dirige plus vers une PS5 qu'une Series X. Voilà. Ça, c'est en ce qui me concerne.
Le choix est fait.
Le choix est en tout cas bien
engagé,
dirigé.
On va dire, on sait jamais ce qui peut se passer d'ici là. Hein. Encore
c'est
un petit
ça.
Bout de temps.
C'est ça. Alors, dans le conducteur, pour cet after, tu as mis une suite de 5 mots et je n'en comprends quasiment aucun.
Pharaon revient par Triskel, Létis.
Qu'est-ce que ça veut dire? Décrypte-moi cela, je ne suis pas Champollion, mon cher Louis.
Pharaon, quand même, tu connais ce jeu PC qui est sorti il y a des années.
Ça me dit vaguement quelque chose,
bon,
mais c'est pas ma carte.
Tu devais avoir 1 ou 2 ans. Alors, c'est un jeu de gestion de ressources. Kaisar 3, tu connais Kaisar?
Non.
Oh là là, purée, t'es si jeune que ça. Donc,
je suis né en 92.
Ouais, c'est
bon,
le jeu devait sortir, je pense. T'es plus si jeune que ça, le temps commence à passer.
Non,
je sais,
les responsabilités viennent. Non, j'avais 7 ans quand il est sorti, Pharaon.
Donc c'est un jeu, en fait, qui se déroule comme le nom... Autant des pharaons, exactement. Il y a eu même cette petite extension qui s'appelait Cléopâtre. Autant des Cléopâtres. Et tu devais gérer, voilà, ta cité à ce moment-là, donc la nourriture, etc. Faire monter, finalement, les habitants en qualité de vie pour qu'ils puissent être de plus en plus riches et avoir de plus en plus de sous, répondre aux besoins de foi. Voilà, c'est une sorte de SimCity, on va dire, à l'époque antique. Kaisar 3 était juste génialissime aussi à l'époque. On a eu également l'Empire du Milieu avec la Chine. Enfin voilà, c'était des jeux vraiment cultissimes par Blue Byte, je crois. Mon Dieu, j'ai un affreux nom. Blue Byte, c'est Settlers.
Kaisar, pardon.
Alors,
attends, pas là-dessus.
Tous, c'est le même développeur.
C'est Impressions Games dans ce cas-là.
Impressions Games, ça c'est bizarre. J'avais Blue Byte en tête, mais peut-être qu'ils ont récupéré après la licence ou quelque chose comme ça. Publié par Sierra, voilà, donc les fameux jeux,
jeux
Sierra. Donc voilà, c'était vraiment de très 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 bons jeux avec une très belle 3D isométrique. Et il y a donc un remake qui va arriver de Pharaon, prévu pour l'année prochaine, si je me souviens bien, qui est développé en fait par Triskel Interactive, qui, comme son nom l'indique, est un studio de développement breton, qui est donc à l'origine de Létis Path of Progress. Qui est donc un jeu qui était totalement inspiré justement des Kaisar, des Pharaons. C'était exactement le même principe. Et j'avais dû vous en parler dans la cartouche, je crois, ou dans un autre podcast de jeux vidéo, je ne sais plus, peut-être dans les Tolis à l'époque, parce que le jeu est sorti il y a un moment. Mais voilà, donc je suis étonné et content en même temps. C'est rigolo parce qu'ils ont fini par faire un jeu inspiré de ces jeux-là, et aujourd'hui ils récupèrent la licence et ils en font un remake. Enfin, tu vois, c'est assez marrant et c'est très très bien parce que Létis était un bon exercice, je pense, un bon premier jeu. C'est leur premier gros projet, et là ils partent sur vraiment une licence connue et reconnue, et ça a créé un gros gros engouement, bien évidemment, auprès des fans du genre, et j'ai vraiment hâte de pouvoir y rejouer. Et je crois que je vais relancer Kaisar 3, l'original, du coup, en parallèle, pour me replonger dans cette ambiance où vous manquez de patriciens, vous manquez de plébéiens, avec les petites voix qui étaient très sympas. Et non, vraiment, voilà, donc un jeu à surveiller si vous aimez la gestion, et si vous connaissez pas, profitez-en, parce que sur GOG et sur Steam, on trouve Pharaon, Kaisar, tout ça, donc allez jeter un petit coup d'œil.
Est-ce que tu veux que je te parle un peu d'Ubisoft, Lou?
Non, mais je sens que tu vas le faire quand même, parce
on
que
va
Ubisoft
devoir.
En ce moment, ouais, c'est fou.
Ils ont sorti un petit jeu mobile qui s'appelle Tom Clancy's Elite Squad.
Ah non, pas celui-là.
Si, et je vais te lire le thread d'Oscar Lemaire, notre ami Oscar Lemaire, qui résume très bien la chose.
Je
pirate et je pille Oscar, mais simplement, il a excellemment résumé la situation. Donc je vous le lis, ça date du 29 août 2020. Je cite, j'essaye de résumer tout le what the fuck qu'il y a dans l'intro du nouveau jeu mobile avec Sam Fisher, Splinter Cell, dont le directeur créatif est Charlie Guimau, fils d'Yves, Mais ça ne tient pas en un tweet.
Alors attends, je t'arrête tout de suite pour un petit peu. Donc Charlie Guillemot pour situer.
C'est le fils d'Yves Guillemot, le patron d'Ubisoft.
Le fils du patron qui a donc obtenu son diplôme à 24 ans et qui a donc été à la tête d'un des studios de développement
la même année.
D'Ubisoft à 24 ans également. Mm. Donc voilà. Oui. Népotisme.
Népotisme incroyable. On reprend avec ce que dit Oscar. Après avoir vu toutes les cinématiques, il y a des mouvements de contestation qui réclament le pouvoir au peuple et attaquent la corruption. Les méchants sont une organisation liée à ça, représentée par ce qui est littéralement l'un des logos de Black Lives Matter. Donc là, il parle en l'occurrence du point levé. On incarne un groupe de soldats d'élite missionnés par les gouvernements pour les arrêter. À un moment, les gentils torturent un mec pour obtenir le plan des méchants avec la narration qui explique bien que pour gagner, il faut torturer. Le plan des méchants consiste à provoquer une pandémie mondiale pour discréditer les gouvernements en place qui n'arriveront pas à gérer et ainsi prendre le pouvoir. Voilà, voilà.
Poète, complotisme et crime de guerre.
Donc dans le délire, voilà, complotisme et crime. Alors c'est drôle parce que c'est arrivé le même mois, je rappelle, que le Call of Duty Cold War avec littéralement un Reagan virtuel qui te promet de faire des crimes de guerre impunément. Donc Ubisoft a quand même réussi à faire mieux dans ce contexte, ce qui est assez incroyable. Et quand je dis mieux, évidemment, je pense pire. Ubisoft depuis s'est excusé en disant on va retirer le point, désolé. Alors que, enfin voilà, c'est clairement
de fond surtout. C'est
ouais, c'est dingue.
Genre, j'ai vu l'histoire et je me suis dit mais c'est pas possible quoi.
C'est surréaliste.
Oui, et on a vu aussi pas mal d'auteurs qui ont travaillé du coup sur les biographies des personnages des méchants, sauf qu'ils ne savaient pas qu'ils travaillaient sur des méchants. Mais enfin voilà, enfin c'est what? Enfin, le jeu des Trumpistes quoi. Enfin, je ne comprends pas.
L'idéologie qui est charriée par ces cinématiques et par, on va dire, le travail créatif qu'il y a derrière, malheureusement, joue effectivement dans cette vision du monde hautement discutable et discutée. Intéressant également, selon Jason Schreier, donc le journaliste d'investigation autour du jeu vidéo, qui travaille aujourd'hui chez Bloomberg, qui dit le week-end où tout ça est sorti, certaines personnes employées par Ubisoft ont publié sur des forums internes des messages assez vénères. L'un d'entre eux qui commence par « Je suis sincèrement fatigué par tout ce qui a un rapport avec Ubisoft ». On parle d'employés d'Ubisoft qui postent ça en interne dans le contexte. Fun fact, parce qu'Ubisoft a un sens du timing absolument incroyable, ils viennent d'annoncer il y a un jour ou deux qu'ils tiendraient prochainement un nouveau Ubisoft Forward, donc un nouveau direct avec des annonces de jeux. On rappelle que le précédent avait eu lieu juste après les révélations sur les harcèlements dont certains sexuels qui ont été couverts par la boîte et pas mal de ses pontes, voire même commis par pas mal de ses pontes. C'est pas incroyable tout ça quand même.
Ah là là, tout ce capital sympathie acquis par Ubisoft quand ils ont voulu se faire racheter par le méchant Bolloré pour finir par se dire que ah bah finalement c'est une entreprise comme les autres où vraiment il y a des Mais non, je partage l'avis de cette personne qui disait j'ai juste ras-le-bol de tout ce qui touche à Ubisoft. Je crois qu'ils n'ont pas conscience qu'ils sont en train de saborder leur image.
Ah oui, là Non, ça va être rude pour les personnes chargées de l'image de la marque parce que c'est difficile de sauver ça, sauf de grands actes de contrition. Encore une fois, quand on voit l'étendue du truc, tout ce qui s'est passé sous le nez d'Yves Guillemot et le fait, enfin vraiment, de mettre son fils à la tête d'un studio à 24 ans juste après avoir eu son diplôme, sérieusement. Pourquoi la question de la démission d'Yves Guillemot ne se pose pas encore publiquement?
C'est ce que j'allais dire.
Mon Dieu! Mon Dieu!
À mon avis, le conseil d'administration, là, il va commencer quand même à se dire...
Il devrait, en tout cas.
Franchement, oui. Enfin, là, il devrait quand même se poser des questions sur est-ce que le studio est bien géré. Après, c'est le problème un petit peu toujours. C'est quand les chiffres sont bons, malheureusement, qu'importe des fois les conditions de travail et l'image finalement. Donc,
je vais détendre un peu la situation si tu le veux bien, parce que tu parlais tout à l'heure de Digital Justing en comparaison avec Fall Guys. Tu l'as décrit comme le jeu des
vraiment la détendre.
Tu l'as décrit comme étant le jeu des easy. Et bien, je tiens à dire qu'il ne faut pas le confondre avec Mario Land, qui lui est le jeu Daisy. Sur ce,
je ne comprenais pas ce que tu avais écrit. Du coup, je lisais
le jeu Daisy, le jeu Daisy,
le jeu Daisy, Mario Land, trois petits points. Quel est le rapport?
Voilà, non, c'était pour moi, c'était mnémotechnique pour pouvoir te faire la vanne,
bien
évidemment.
Bon,
c'est une transition parfaite pour parler de deux jeux Nintendo que tu voulais évoquer. Premièrement, Pikmin 3, qui sortira dans une version deluxe prochainement en octobre, je crois.
Ah, je suis à fond dans les remakes là, du coup, dans cette after.
30 octobre.
Ouais.
Pour Halloween.
Alors, j'avais eu gratuitement sur Wii U.
Quand t'avais acheté Mario Kart, j'imagine.
Je sais plus. Il y avait un truc où tu pouvais choisir.
Je t'ai juste à la gueule parce que t'avais acheté une Wii U.
Non, mais tu sais, t'avais un truc où t'avais un jeu gratuit à un moment, non?
Oui, c'était Mario Kart. Quand t'achètes Mario Kart 8, ils t'offraient un jeu parce qu'ils étaient vraiment dans leur politique de ouh là là, c'est compliqué la Wii U.
Ah ouais, bah écoute, c'était sûrement comme ça, et j'ai jamais lancé Pikmin 3, parce que Wii U, et ben là, je crois que je vais l'acheter et je vais y jouer, parce que c'est vraiment une licence que j'aime bien, je pense
sur une console que t'aimes plus.
Pikmin 4, que c'est une console que j'aime plus, effectivement, que la Wii U, mais c'est ce qui tend à prouver justement que la Switch, c'est vraiment la Wii U qui a fonctionné, parce que tu retrouves tous les jeux, quoi, il y a absolument tous les jeux. Quels sont les jeux Wii U qui ne sont pas encore
Mario
sortis
sur... 3D World, s'il vous plaît, les amis.
Oui, ce qui est prévu avec les fameux remakes, enfin la grosse rumeur.
Potentiellement, voilà, on verra. Il faut pas.
Pour l'instant, il y a rien. On ne sait pas encore ce qu'on va manger chez Nintendo cet hiver, mais on devrait en savoir plus.
Tu sais quoi le côté un petit peu comment dire, faire un vœu mais il se réalise de manière ironique, c'est que on risque d'avoir notre fameuse compilation Mario, mais ça va être le jeu de l'hiver et ce sera le seul gros truc. Ça sera tellement triste.
Mais pas tant que ça, moi je serais déjà très content parce qu'on a quand même, je trouve qu'on a eu une belle année.
Si on pouvait avoir quelque chose d'original en plus, je serais content quand même.
Ah, t'as eu Paper Mario.
J'ai eu Paper Mario en juillet.
Oui, mais tu verras, quand tu auras mon âge, le temps passe beaucoup plus vite.
Oh non, je peux déjà te dire qu'il passe beaucoup trop vite, mais je dis juste en termes de calendrier et d'offres.
Et tu verras, ça passe de plus en plus vite. Comme
c'est ça. Mais on est déjà en réalise qu'on est déjà en
non,
septembre, mec.
Non, je ne réalise pas, je refuse. Non, je te jure, cet été, je ne l'ai pas vu passer. J'ai pas compris ce qui s'est passé cet été.
Oui, il a fait chaud, mais il s'est rien passé. C'est très bizarre.
J'ai la tête dans un bocal comme Olimar, tu vois, pour boucler la boucle. Mais en tout cas, je suis très content de le faire. J'avais bien aimé le premier, vraiment le premier, je l'avais adoré. Le 2, un petit peu moins, même si du coup, il se libérait de ses contraintes temporelles, etc. Je sais pas, il y avait un truc de moins.
Qui faisait succion.
Qui faisait succion, exactement. Et le 3, bah, comme je ne l'ai pas fait, je ne sais pas trop. J'espère qu'il se rapproche un peu plus du premier. Je ne sais pas si c'était une question d'ambiance ou quelque chose comme ça. Mais j'aimerais bien justement que les jeux 64, potentiellement les jeux GameCube, puissent revenir à un moment. Voir les jeux, un peu plus de jeux
oui,
Super.
Oui, alors voilà. Alors, ça fait... on a eu 2 années de suite une nouvelle console ajoutée au Nintendo Switch Online depuis 2018. Nous sommes en septembre 2020. Bonjour, j'aimerais que ce soit la Game Boy, soit la 64.
Ouais, non, mais il est temps d'ajouter des jeux surtout. Enfin, je veux dire, comment ça se fait qu'actuellement, alors que la console connaît un carton incroyable, elle est toujours un catalogue qui soit moins fourni que celui de la Wii, de la console virtuelle, de la Wii.
Bah, ils ont pas besoin de se presser, ça marche quand même.
Bah, ouais, mais c'est énervant. Moi, ça m'énerve. Voilà.
Et il y a aussi une question, j'imagine, de négociation de droits. Il y a beaucoup de jeux Super NES de Nintendo, purement de Nintendo, qui sont pas encore disponibles.
Je suis sûr que oui.
D'accord, très bien. Merci pour cette analyse précise.
Argumentée, tu vois.
Parce que, comme tu le décrivais, c'était mais en mode, non, oh, il manque celui-là. Non, si, les deux Donkey Kong Country suivants, par exemple.
Ouais, mais justement.
Après, c'est Nintendo
ouais,
est rare, mais.
Tu vois, je sais pas
oui,
trop
mais enfin, c'est le premier, ils ont pas plus de monopole sur les deux suivants que sur le premier, donc.
Tout à fait. Oh, en fait, je sais pas.
Bah, non.
Ouais, non, je sais
Nintendo
pas.
Avait même plus collaboré sur le second que sur le premier, donc.
Ouais, mais au niveau des personnages, tu sais, c'est un petit peu compliqué, les droits des personnages, genre Dixie, enfin non, je raconte de la merde, peut-être.
Non, je pense pas, parce qu'ils ont toujours été en. Enfin, c'est bizarre, mais ils ont toujours été, par exemple, en sticker ou en trophée dans Smash Bros. Bien après le rachat, quoi, donc.
Ah, Dixie qui est tellement le meilleur personnage de la famille Kong, de toute façon. Enfin bref,
qui a un excellent
voir.
Thème quand elle finit un niveau, elle sort sa guitare, c'est incroyable.
Oh, putain, oui. Je veux c'est tellement génial. Refaire Donkey Kong Country 2, il est formidable.
Formidable.
Formidable. Je voulais faire un
on s'accroche aux lianes, c'est incroyable.
J'ai des images en tête, c'est terrible.
Formidable King Karol, quel prestance.
Oh mon dieu, ah, je vois Jack.
Il a visité notre ville de Blois avec sa fantastique armada de bananes.
Ah, je veux un jeu où
Jack Lang commente Donkey Kong.
Jack Lang, non, où Jack Lang est jouable dans Donkey Kong.
Formidable, au niveau appelé Liane Folie, évidemment, référence à l'artiste.
Évidemment, et je sais pas pourquoi j'ai eu un Roland Stéphane Bern aussi en même temps.
Oui, donc non, je sais, chez moi les deux voix sont très proches.
Ah, mais hein. Je rêve d'un jeu Jack Lang et Stéphane Bern à la place de Didi et Dixie, tu vois, c'est formidable. Formidable. Non, je voulais faire un petit bilan du coup sur Animal Crossing New Horizons. Parce que nouveau mois, du coup, c'est la fête des glands et la fête des.
Oui,
oh
non, excuse-moi.
J'allais le passer donc, sans rire.
C'est le jeu Daisy, très bien, continue.
C'est le jeu Daisy, exactement. Mm-hmm.
On n'est pas fatigué du tout, il n'est pas si du tout 22h.
Si vous voulez participer à la fête, mes DM sont ouverts. la fête des glands et des pommes de pin, du coup.
Envoyez des photos de pommes de pin.
Envoyez les deux en même temps. Mais du coup, alors j'ai réussi à avoir la mute cigale. Écoute, quelle. Est-ce que tu joues toujours autant?
Je m'y suis un peu remis. Enfin, j'y joue une à deux fois par semaine. Voilà, c'est la bonne réponse.
Moi, j'essaie encore d'y jouer quasiment tous les jours, sauf les jours où j'ai un coup de mou ou j'ai trop de taf, tout ça. Mais j'essaie d'être assidu. Et j'ai réussi du coup à voir la mute cigale, donc qui disparaissait là. Je veux dire, je ne peux pas attendre jusqu'au prochain été pour l'avoir. Et du coup, il me manque plus que 5 insectes et ça me rend fou de joie. Fou de joie.
Bah, ils finiront bien par en rajouter d'une manière ou d'une autre, donc on verra bien.
Ah, je sais pas, mais je suis pour. Bah,
ils ont rajouté les animaux que tu peux choper en plongeant, par exemple.
Ouais,
récemment.
Créatures marines, mais justement, c'est un nouvel onglet, tu vois. C'est pas un nouveau. Mais rien ne les empêche, effectivement, d'agrandir le bestiaire actuel, hein, ça c'est certain. Et pourquoi pas, moi, je dirais avec grand plaisir, même, je dirais. Donc, j'ai mon musée qui se remplit petit à petit et c'est extrêmement agréable. Aujourd'hui, j'ai pêché un brochet, j'ai pêché un saumon, donc j'étais content. J'ai une petite crevette, du nord, je crois, je sais plus ce qu'est une crevette nordique. C'est très bien. Et j'espère que la rumeur sur les légumes qui devraient arriver du coup cet automne.
Sur les légumes. Excuse-moi, je suis désolé. J'essaie de prendre ça le plus au sérieux possible, mais la rumeur sur les légumes, j'ai un peu de mal.
La rumeur sur l'arrivée des légumes, écoute, avec les recettes de cuisine, ce serait formidable. Est-ce que t'as pas envie de planter des petites carottes, franchement, dans Animal Crossing? Et moi, ce que j'aimerais surtout, en fait, c'est le retour, je le dis à chaque fois, les fruits exotiques, hein, le kiwi, la mangue, le citron, il me manque beaucoup. Voilà, tu vois, j'ai des vrais problèmes dans la vie, quand même.
Bon, allez.
Mais non, je trouve que l'été, avec les feux d'artifice, les trucs comme ça, et tous les créatures. Alors, les créatures marines, c'était très très bien. Le août était un petit peu.
Un peu vide,
parce que déjà, t'as pas un grand renouvellement des créatures.
Mais ce qui me manque, c'est des nouveaux PNJ, avec des nouveaux lieux, en fait. Ça, j'aimerais bien. J'aimerais bien le retour de Marais Chausset, j'aimerais bien le retour de. Ça me ferait plus jouer, je pense. Avec des nouvelles mécaniques plus.
Ce que j'aimerais encore plus, c'est plus de lignes de dialogue des personnages. Parce que je trouve que comparé aux autres Animal Crossing, les personnages sont vraiment en boucle.
Mais je trouve ça se voyait déjà au launch ou l'écriture. Enfin, on en avait déjà parlé hein, dans notre épisode dédié.
C'est vrai,
mais
tout à fait. Ouais, t'imagines, déjà à l'époque, on le voyait. Mais là, du coup, le même personnage. Ah, tiens, il faudrait que j'appelle mes parents pour voir ce qu'ils font. Tu veux que je te raconte un petit peu ma vie, quoi. T'as
mais
pas
ça se voit encore plus sur Marie quand tu charges le jeu. Parce qu'elle a vraiment genre 5 vannes sur ce qu'elle a fait hier.
Les mots croisés, débat et tout.
C'est une vieille, c'est une boomer. Ah,
c'est grave, une boomer.
Marie is a boomer 2020.
Non, mais c'est dommage parce que les animaux. tu vois que c'est là qu'ils ont plus travaillé finalement le concept autour, qui est très réussi, hein, le craft, le remodel, tout ça. Alors que les animaux en eux-mêmes, bah, finalement, dans cet épisode, c'est pas ce qui me fait revenir dans le jeu. Alors que d'habitude, c'est aussi ce qui me pousse aussi, tu vois, c'est aller voir mes petits copains, les animaux. Finalement, là, je me concentre beaucoup plus sur le musée, qui a quand même été ma motivation première, et sur l'aspect de mon île dans un second temps. Mais pour le reste, donc j'espère que ça va s'améliorer. Je pense qu'une mise à jour d'ajout de texte, ce serait bien. Mais après, c'est plus de taf encore, je pense, que des simples.
C'est de la trad supplémentaire. Faut courir après l'équipe qui a fait la première trad. Enfin,
en même temps, il faut de la trad toujours pour aussi ce qui arrive par la suite. Hein. Forcément, pour les événements, pour les créatures, tout ça. Hein. On va se retaper Jack aux Lanternes, de toute façon, sur le mois d'octobre, j'imagine. Ce qui va être assez rigolo. J'espère que ce sera beaucoup moins chiant que les œufs de ce putain de lapin psychopathe.
Cling, 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 cling.
Mais voilà, enfin, j'espère qu'ils vont rebooster un petit peu et que là c'était juste un petit le creux de la vague de l'été, quoi.
Allez, on se laisse un peu sur de la musique d'Animal Crossing. Bye bye, à bientôt.
Ciao. Moi, je suis prêt, en tout cas, j'ai fini mon petit yaourt nature.
Ton petit yaourt. Eh ben, c'est bien, c'est parti, on y va.